Focus. Une immersion dans l'univers de la création.
Bonjour amis auditeurs, nous sommes dans un nouveau Focus et nous recevons Olivier Père, l'écrivain globetrotteur, on peut dire ça. Bonjour Olivier.
Bonjour Gilou.
Alors on peut peut-être dire aussi cyclo-voyageur aventurier, puisque tu as tout fait en vélo, pratiquement, enfin une bonne partie.
Alors j'ai fait un gros voyage à vélo et ça a aujourd'hui un peu défini ma vie dans ce sens-là que je suis parti plusieurs années et ça a été un voyage d'exception pour moi dans ma vie.
Oui, puisque tu es parti 7 ans.
Je suis parti 7 années. Alors le départ, c'est que je partais pas 7 années, mais bon, il y a toute une genèse sur laquelle on pourra revenir.
Bien sûr, ouais.
Mais oui, enfin, c'est vrai que pendant un temps assez long, pendant ces 7 années, je me définissais comme cyclo-voyageur, voilà. Alors, le terme aventurier est peut-être un peu poussé, mais dans cela qu'on va dans un univers un peu inconnu, il y avait une aventure à la clé, effectivement, voilà.
Et puis, il faut dire que ton programme, ton leitmotiv, c'était un tour du monde zéro carbone. Tu tenais absolument à ne pas laisser de traces.
Alors tout ça, ça a ses origines et oui, il y avait cette idée forte chez moi. C'était un tour du monde sans aucun moyen motorisé, donc zéro carbone pour avancer. C'était l'idée de base, oui.
Du coup, ça t'a amené en vélo, en voilier, en parapente.
En fait, je pense que je peux peut-être revenir en arrière sur justement l'origine de l'idée, etc. Expliquera ensuite le comment. En fait, c'était quand j'avais 14 ans, j'ai vu un jour mon grand frère partir à vélo depuis la ville de Grenoble où on habitait. Et là, il est parti pour lui aller jusqu'à la dune du Pilat depuis Grenoble. Et c'était la première fois que je voyais la possibilité in vivo de prendre un vélo comme une sorte de moyen de locomotion au long cours et d'en fabriquer sa petite maison. Et ça a été pour moi une sorte de révélation. À son retour, on lui a offert un livre. C'était justement l'histoire d'un tour du monde à vélo. Un livre que je me suis empressé de lui piquer. Et c'est qu'à l'âge de 28 ans que je suis parti avec l'idée en tête de partir cette fois, mais sans utiliser de moteur du tout pour avancer. Et donc, au lieu de traverser les océans en avion, je voulais traverser en voilier stop. Et je voulais aussi prendre avec moi une petite aile de parapente parce que c'était une activité dans laquelle je m'étais plongé et qui a été une force vive pendant plusieurs années avant le départ. Et du coup, je voulais pas abandonner ça plusieurs années. Je voulais absolument le prendre avec moi et c'était au contraire, ça enrichissait le voyage.
Oui, du coup, ça t'a apporté le jeu de mots titre de ton livre qui s'appelle En route avec elle, elle, A-I-L-E.
Ah, il y a un jeu de mots, oui, elle de parapente, d'accord, mais elle...
Oui, ta compagne, ta compagne.
Le pronom féminin. Ouais. Ma compagne qui n'existait pas alors.
À l'époque.
Et voilà, et en fait, c'est 3 mois avant le départ, j'ai fait la chose qu'il faut qu'absolument aucun voyageur ne fasse avant de partir, c'est de tomber amoureux. Et donc, j'ai rencontré Nadège. Nadège Perrault, donc 3 mois avant le départ, et moi mon idée c'était de partir seul, donc finalement je suis parti seul, mais au bout d'un an elle m'a rejoint et elle a un peu activé de sa présence par pointillé tout au long de ce voyage de ces 7 années, à tel point qu'elle est restée une première fois pendant 7 mois, ensuite elle est repartie 8 mois, ensuite elle est revenue pendant 2 ans et demi, ensuite elle est repartie, elle est revenue pendant 1 mois ici et là, et au final elle est restée à peu près la moitié du temps avec moi dans ce voyage.
Et comment on passe du mono entre guillemets au bi, enfin je veux dire le voyage tout seul avec quand même pas mal de solitude et puis soudain l'effervescence d'être à deux.
Eh ben c'est un peu, ça demande une adaptation, mais elle était bienvenue cette adaptation parce que moi quand je suis parti seul, c'était vraiment une recherche de vivre de façon solitaire et du coup j'ai eu ce bénéfice pour une fois de me retrouver tout seul et de vivre quelque chose qui me faisait vibrer moi et qui me correspondait complètement, voilà. Et ça a été une richesse énorme pendant plusieurs mois. Mais c'est vrai qu'au bout de 10, 11 mois, ça commençait à me peser. Je me suis retrouvé un jour en Argentine, comme ça, à prendre à manger mon bol de pâtes là, et je me suis retrouvé un peu con devant le coucher de soleil,
tout seul,
et je me suis dit vivement qu'elle arrive, parce qu'il était prévu qu'elle arrive un mois plus tard. Ça m'a fait un bien fou qu'elle vienne. J'ai découvert aussi les compromis à faire dans une vie à deux, c'est pas facile tout le temps. Et donc autant ça enrichissait d'une présence, d'un double regard sur les choses qu'on vivait. Il y a eu des leçons de maturité dans ces échanges. Et c'est ainsi, au fil du temps, qu'on a réussi à vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Parce que c'est beaucoup ça. La présence, elle est omniprésente. Mmh. Et même si on a vélo, on peut certes aller faire un tour au loin, etc. C'est pas comme sur un voilier. Mais donc, il y avait moyen de se libérer un peu quelques heures. Mais tout de même, c'était quand même quelque chose au long cours. Et j'ai pu retrouver une certaine liberté au moment de me retrouver seul ensuite.
Et je pense que le volet contemplatif, qui est un petit peu ta marque de fabrique aussi, tu aimes contempler l'univers, entre guillemets, je suppose qu'elle a un côté contemplatif aussi, Nadège. Ou alors elle te contemple toi et ça lui suffit.
Ah non, s'il vous plaît, non, pas de ça. Non, elle aime beaucoup, je pense qu'on partage ça tous les deux, c'est d'aller à la recherche plus des paysages que des gens.
Ouais.
Utiliser les mots simples là-dessus. Et en fait, moi, c'était ma recherche. C'était pas vraiment aller. On dit souvent, on part en vélo, on part en voyage pour aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres peuples. Pour moi, c'était pas ce qui m'animait. C'est vraiment, je souhaite voir la planète comme elle est, comme j'ai envie de faire le tour de mon jardin pour savoir où est-ce que j'habite. Pour moi, la planète est un immense, notre jardin à tous. Mmh. Allons voir ce qui s'y trame, allons voir quelles sont les choses extraordinaires que la nature a pu faire naître sur cette planète, et voilà. Et Nadège partage ça aussi, donc on se rejoignait assez. D'ailleurs, à force de faire le tour de la planète, on a commencé à regarder effectivement ce qu'il y avait sur la planète, mais aussi ce qu'il y avait au ciel. Et du coup, moi, c'est quelque chose qui me passionnait depuis longtemps, et j'ai commencé à échanger pas mal avec Nadège là-dessus, et on a regardé les étoiles. Et aujourd'hui, Nadège a repris un peu ces discussions, etc., pour devenir animatrice en astronomie. Elle a monté sa petite entreprise, la Bergère des étoiles. Elle intervient ici et là à l'office de tourisme, pour les offices de tourisme, etc. Là, on est à Saint-Michel-de-Chaillol pour faire quelques interventions aussi là-dedans.
Avec le parapente, tu as pu survoler des endroits merveilleux comme le Tibet. Donc, tu as volé au-dessus de 4500 mètres, quasiment à 5000.
Alors, c'était un peu le thème, une des thématiques du Tour du Monde, de En route avec elle. C'était d'essayer de prendre le parapente et de grimper un sommet un peu symbolique dans chaque pays, au moins un,
ouais.
et d'essayer d'en décoller en parapente, de sortir au moins l'aile une fois dans chaque pays. Alors j'ai eu le bonheur d'amener ce parapente sur mon petit vélo à traverser le Yunnan, le Xinjiang, enfin qui sont les provinces chinoises qui bordent le Tibet, dont le Sichuan. Et c'est au Sichuan que j'ai pu faire un petit vol. À un moment donné, j'ai sorti mon aile. Et en fait, c'était vraiment plus pour faire du gonflage, c'est-à-dire des exercices au sol, petite colline. Et le ciel était plutôt un peu menaçant, tout ça. mais bon, le vent était correct. Et puis, je m'amusais à faire des tout petits vols comme ça. Et à un moment donné, enfin, ça faisait une heure que je faisais du gonflage dans un air plutôt calme. Et soudain, il y a une bourrasque qui m'a projeté en l'air à plus de 100 mètres de haut. J'ai vu la voile faire un joli fer à cheval derrière moi. J'ai du mal encore j'ai encore ces images en tête. Et je me souviens que 100 mètres plus haut, et je voyais une voiture de flic qui s'était arrêtée près de mon vélo et qui prenait des photos en rigolant. Et les instants d'après, c'est la voile qui se réouvre, le vent qui se calme, et j'arrive près de mon vélo, j'atterris tout tremblant, et les policiers qui rigolent et qui font des selfies avec moi derrière.
Ouais, mais tu es l'extraterrestre pour eux.
Complètement. Ils n'avaient pas eu conscience que moi, j'ai failli périr directement de la chose.
Alors, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui a été présent en permanence dans le voyage, c'est l'immersion dans la biodiversité. Moi, j'ai noté que tu avais vu 8 baleines, 3 dorades, 2 bancs de globicéphales.
Oui, alors c'était un peu dans cette recherche-là d'être contemplatif, effectivement, d'essayer d'absorber un peu avec les yeux et tous mes sens, les sens du monde. J'ai un ami, Claude Martaler, grand cycliste devant Dieu, qui disait le terme « embrasser le monde ». J'aime beaucoup cette expression. Mmh. Par exemple, les globicéphales sont C'était au Vanuatu, aussi à l'archipel des Vanuatu. Et donc on était 4 mois avec des amis en mode voilier, avec Nadège pour le coup. Et on voit au loin comme ça des sortes de troncs d'arbres qui flottaient dans l'eau. Du coup on s'approche et puis à ce moment-là on était au moteur. On a éteint le moteur, on est arrivé tout glissant au milieu d'eux. Et on a regardé dans l'eau, donc ils étaient tous là, on croyait que c'était des baleines. Bon, c'est un peu des sortes de baleines. Et on a plongé avec le masque et on a pu voir, moi j'ai pu m'immerger dans l'eau et t'avais une maman et son enfant qui se sont mis comme ça à la verticale. Alors il y a une immensité, je sais pas, c'est un animal qui devait faire 10-15 mètres de long, qui se met à la verticale, le bébé aussi qui doit faire bien 6 mètres de long. Et le bébé me regarde, la maman aussi, et le bébé s'en va lentement à travers l'eau bleue, et la maman doucement, très doucement, s'en va aussi. Et c'était un moment absolument magique. Je me suis souvenu, enfin, je suis plus endormi le soir de cette image qui tournait en boucle dans ma tête.
Tu as pu échanger quelques mots avec eux ?
Non, je crois que j'ai rien dit. J'étais vraiment, on communiquait par le regard et par juste la présence l'un envers l'autre. Ils percevaient que j'étais là, que j'étais un animal aussi sur cette planète. Je voulais pas leur faire de mal et que, inversement, je crois. Tout allait bien.
Bah quand on lit ton livre, on pense un peu à Moitessier, hein. Tu vois, parce que tu as une grande partie où tu es en bateau, comme tu viens de le dire. Tu voyages à la force de tes mollets et du vent. Et tu parles de fair means, comme les grimpeurs. Donc un peu cet état d'esprit équitable.
Alors là, t'as soulevé pas mal de choses. Ouais. Et en fait, j'ai envie de réagir en disant oui, ce voyage, cette idée, elle a été apporté par des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont vraiment passé le flambeau de l'inspiration. Et ils ont mis ces graines dans ma tête. Donc il y a mon grand frère dont je faisais référence tout à l'heure. Il y a aussi Sylvain Tesson et Alexandre Poussin qui eux parlent, enfin surtout l'écrivain Tesson qui parle de by fair means. Alors ça, je l'ai lu une fois dans un de ses bouquins. Donc avec les moyens honnêtes, s'approprier le monde avec des moyens honnêtes. Et du coup, alors chacun y met sa définition, mais effectivement pour moi c'est le sans moyens motorisés qui apportait le mieux cette définition. Et tu as nommé Bernard Moitessier, que j'ai pu lire en traversant l'Atlantique sur un voilier. Et effectivement, ce type-là a vraiment une approche aussi très poétique. Et tout ça, moi, de ces gens-là, surtout entre Tesson et Moitessier, j'ai relevé la poésie nécessaire à un tel voyage. Et finalement, un voyage comme ça, une idée comme ça, c'est d'abord narratif, une narration qu'on se conte à soi-même. Et il faut y mettre de la poésie et de l'esthétisme.
Mais ils ont semé en toi une forme de pensée libre, en définitive. Tu en parles toi-même dans le livre, de cette pensée libre qui t'accompagne.
Cette pensée libre, en fait, je la définis un peu comme... Alors, si on va là-dedans, c'est un peu casser les codes qui font qu'on n'ose pas accomplir nos rêves. Et finalement, en fait, moi, c'est un peu mon histoire. C'est que j'ai une enfance très standard, finalement. Je fais des études, je m'investis dans des études d'ingénieur plutôt longues pour avoir une certaine sécurité de l'emploi, pour avoir... Finalement, tout ça, c'était un schéma qui était un peu imposé par tout ce que je pouvais voir autour de moi, ce qu'on peut appeler la société, le système,
le formatage.
On est guidé par ces créneaux-là, on reste dans ces lignes et on a du mal à s'en éloigner. Et en fait, j'ai eu l'occasion, grâce à ces gens qui m'ont inspiré, de pourquoi pas casser ces lignes et de re-réfléchir ma vie et de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire de cette vie, je sais pas, moi, 80 années que je vais passer sur cette terre. Et du coup, j'ai le choix quand même. Il suffit de re-réfléchir. De quoi ai-je vraiment besoin? J'ai besoin de manger, j'ai besoin d'être un minimum en sécurité, j'ai besoin d'être, voilà.
T'as besoin d'avoir Nadège.
J'ai besoin d'avoir Nadège, pourquoi pas. Voilà. J'ai besoin de parapente, et de vélo, et de voilier, et j'ai surtout besoin d'esthétisme et de poésie. Et en fait, c'est ça qui m'a fait partir sur les routes. Donc j'ai quitté mon CDI, j'étais ingénieur en aéronautique, voilà, vers Toulouse. Et quelque part, j'ai tout largué. C'est une expression qui décrit mal ce que j'ai fait. En fait, c'est pas j'ai tout largué. C'est je suis allé m'agripper sur la prise qui était plus belle et plus sûre. Celle qui allait me faire vibrer toute ma vie. Et du coup, certains le voient comme voilà, un largage, mais ce n'est pas une fuite, c'est plutôt une recherche.
Tu as largué les amarres, tu as coupé ouais. les ponts. On va faire une petite pause musicale avec un morceau que nous a amené, qui est de The Do, qui s'appelle Dust It Off.
Burning papers into ashes, what a sea. How they fly high from the ground up. There is yet another fountain flowing over as the night falls. Keep dreaming.
Nous sommes toujours avec Olivier Père. On a vu à quel point tu t'étais imprégné de ce voyage de 7 ans. Donc ça a duré, c'est vraiment un long cours. Et on se pose la question, qu'est-ce qui te reste de ce voyage? Que deviens-tu maintenant? Tu es toujours avec Nadège?
Oui, alors...
Donc ça, c'est formidable.
J'ai envie de dire spoiler alerte. oui, je suis encore avec Nadège. Ce que je retiens de mon voyage, c'est une question très diffuse, très très compliquée à répondre.
Ah ouais, ça.
Parce que je sais pas, qu'est-ce que tu retiens de tes 7 dernières années? C'est impossible
non,
à répondre.
Non, c'est horrible de faire un bilan de voilà. d'autant d'années et d'autant de choses. Ouais.
J'ai envie de dire après, s'il faut quand même y répondre, j'ai envie de jeter sur la table pêle-mêle. D'abord un amour du regard que je peux porter à la nature et à de façon très globale, c'est-à-dire en fait j'aime aborder les choses avec un angle de vue un peu scientifique. Je me suis beaucoup passionné pour la cosmologie, qu'est-ce qui nous a amené ici, nous, mais aussi tout le reste et en fait tout ce qui compose l'univers autour de nous. Donc c'est une sorte de curiosité j'ai envie de dire sans limite, vu que ça s'intéresse à l'univers dans son intégralité. J'ai aussi, je retiens aussi tu parlais de pensée libre tout à l'heure, et en fait, quelque part, le fait d'avoir réussi à partir sur le long cours et à me trouver un équilibre et à revenir plutôt sain, enfin voilà, et, en équilibre, c'était aussi une sorte de preuve que on peut accomplir les choses qui nous font qui font qu'on peut vibrer dans la vie et du coup accomplir ses rêves, vraiment se casser un peu les normes de sa vie et se diriger vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait rêver, et c'est plutôt une bonne chose. Et malgré certains sacrifices à avoir, parce que ça se fait pas tout seul, et j'en ai tiré un peu quelques recettes pour moi, et puis quelque part une inspiration que je me suis dit ça peut être utile à d'autres de se dire aussi les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai plutôt un discours vers allez-y les gars, moi j'ai eu cette histoire là maintenant, j'ai vu des gens qui ont eu cette histoire là avant, c'est grâce à eux que je suis parti, maintenant je peux être l'une de ces personnes qui passe ce flambeau de l'inspiration.
Ouais, tu es le jalon, l'exemple qui donne envie de faire la même chose. Justement, ça m'amène à la transmission. En définitive, tu transmets ce qui s'est passé pendant ton voyage. Donc, tu fais des conférences et tu vas bientôt faire un film. Tu prévois enfin de sortir le film de images que tu as ramenées.
Je vais te raconter un peu une histoire. C'est donc le 29 décembre 2015. C'est une date que je retiens, qui est à retenir pour moi, parce que c'était la date où j'allais franchir la ligne d'arrivée qui se mêlait à la ligne de départ, donc le jour où j'allais terminer ce tour du monde. Mmh. Et en fait, j'avais donc accompli, j'avais tourné 105 000 km autour de la planète, tu vois, dont 60 000 à vélo, 40 000 en voilier. Et plus de 7 ans et demi sur les routes, 2727 jours de mémoire, je crois, un truc comme ça. Et là, je suis à 100 mètres de l'arrivée et je m'arrête. Et je m'arrête, je regarde, il y avait mes parents qui avaient fait une immense banderole là au-dessus de la maison, là, juste sur la ligne. C'est marqué « Arrivée du tour du monde, enfin te voilà », enfin quelque chose comme ça.
« Welcome Olive », le ouais, « New Olive ».
Voilà, « Arrivée », quoi, la banderole. Et là, je contemple cette ligne et je me dis, là, il y a une phrase de Bernard Moitessier, justement, dont tu parlais tout à l'heure, ce marin un peu philosophe des années 70, qui disait, lui, il écrivait qu'il existe deux choses terribles pour l'homme. La première, c'est d'avoir jamais accompli son rêve. Et la deuxième, c'est justement d'avoir accompli son rêve. Et là, effectivement, cette ligne d'arrivée, c'était un peu la locomotive, le phare, le sémaphore qui me guidait jusque là. Donc pendant 7 ans et demi, moi je me levais chaque matin et puis j'avançais quelques kilomètres en direction de ce phare. Et là, ça allait en être terminé. Donc finalement, ce grand but dans ma vie allait ne plus exister. J'allais le laisser derrière moi. J'avais accompli mon rêve. Super. Eh ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et du coup, ça a été un gros défi. C'était de trouver un rêve plus grand encore que celui qui m'avait porté jusque-là. Et la réponse n'était pas facile. Elle n'était pas facile, mais je l'ai trouvée dans différentes petites choses. Et il y en a une qui s'est trouvée être un peu une révélation. C'était que, en fait, tous ces gens qui me posaient des questions, qui disaient, mais quand ils me voyaient arriver avec mon vélo et mes sacoches, et ils me disaient, mais raconte-nous une histoire. Tu viens d'où? Tu vas où? Raconte. Plein de questions qui se posaient, etc. Moi, un jour, je leur ai dit, mais j'ai dit à une de ces personnes, j'ai dit, mais pourquoi ça t'intéresse tout ça? En quoi? Enfin, c'est juste ma petite vie. Enfin, chacun a sa petite vie et voilà, il l'amène comme il veut. Et là, il m'a dit un truc, il m'a dit, mais attends, toi, t'as pu accomplir ton rêve que t'avais quand t'étais gamin, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et en fait, en répondant ça, il m'a un peu dit, ben. Ça a un peu fait écho à tous ces gens qui m'ont inspiré et du coup je me suis dit en fait c'est ça, c'est le temps du retour, le temps de l'après-retour, c'est le temps du partage. Et du coup c'est pour ça que je me suis efforcé à mettre un peu en commun toutes les notes que j'avais prises chaque jour. J'avais 33 cahiers de voyage remplis de manuscrits et du coup je l'ai compilé dans ce bouquin En route avec elle. Et puis je me suis mis à faire des interventions publiques, on m'a invité dans les écoles, etc. Donc j'ai pu un peu transmettre cette passion que j'avais de dire, un jour on peut aussi se dire de choisir son destin, et ça fait un bien fou. Et donc je fais des conférences effectivement, et là je m'oriente vers l'élaboration d'un film documentaire en reprenant un peu les images de ce que j'ai pu tourner pendant ce tour du monde.
Ouais, parce que t'as quand même eu un stock d'images importantes, non? Je suppose. T'as fait comme pour le parapente, t'as fait des images par pays.
Ouais, alors je découpais pas par pays, moi, hein, je découpe par timing. Donc oui, j'ai eu un gros stock d'images et en fait, il s'est passé un truc, c'est qu'à l'arrivée, j'ai tout mis toutes ces images sur un beau disque dur et le disque dur s'est cassé. On a réussi à récupérer à peu près une grosse moitié des images. Du coup, avec ça, on va pouvoir faire quand même quelque chose. Enfin, c'est un travail titanesque. Donc là, je m'oriente vers ce travail-là.
Alors, je pense à ce que tu me disais tout à l'heure. Yves, tu as eu la chance d'aller en Turquie et de voir l'Arche de Noé quasiment. Tu l'as vu dans les strates du mont Ararat.
Je viens de traverser l'Iran et j'arrive à la frontière avec la Turquie. Et du coup, je traverse la frontière. On est un peu au nord de la Syrie. Et sur ma droite, là, s'élève l'immense silhouette du mont Ararat.
Pardon.
Ou Areda en langue kurde là-bas.
Ouais.
Et donc, 5200 mètres, un immense cône comme ça, planté au milieu du désert. Et Bref, un cône comme ça pour un pilote de parapente comme toi et moi, voilà, c'est comme une glace à la vanille qu'on nous offre un après-midi d'été très chaud, quoi.
Ouais.
On n'y résiste pas. Du coup, je me donne 3 jours là pour escalader cette montagne et j'ai très peu de temps sur internet, mais j'arrive à collecter deux infos. La première, c'est que les conditions sont idéales pour tenter un décollage du sommet dans 2 jours. Et que la deuxième, c'est qu'il faut éviter à tout prix les guides qui risquent de me demander un permis d'accès à la montagne que j'ai absolument pas eu le temps de prendre. Du coup, deuxième jour de l'ascension, je suis enroulé dans mon aile de parapente, je suis en train de dormir là en bivouac, et le matin, l'aube est pas encore tout à fait levée quand soudain, j'entends une grosse explosion comme ça qui secoue le sol. Et là, je me demande ce que c'est, je vois un gros nuage noir qui passe, et puis j'entends un avion de chasse, un F-16, voilà. Là, je me dis, ah, c'est l'avion qui doit avoir passé le mur du son. Par contre, le nuage noir, il m'inquiète un peu. Et j'entends les cliquetis, les rebonds, en fait, des débris métalliques du missile qu'il venait d'envoyer. Et là, je me dis, ça y est, je suis en plein dans une zone de tir. Je me rappelle alors que, on est complètement proche de la frontière iranienne, qu'en fait, le mont Ara, il est géré par les militaires. C'est quelque chose que je savais, mais bon, c'est le mont Ara, c'est touristique, donc ça va. Et en fait, je me dis, peut-être qu'ils ont fermé la montagne, et à force d'être allé sans demander à quiconque la permission, en fait, je me suis retrouvé dans un exercice de militaire. Et du coup, j'ai pris mon casque, j'ai mis sur ma tête, et j'ai avisé une sorte de toile de jute blanche que j'ai mis au bout d'un bâton pour faire une sorte de drapeau blanc, et je suis allé me planquer dans les rochers à quelques 500 mètres plus haut. Donc j'arrive au sommet, je dors là-haut. Toute la journée, il y avait même un hélicoptère qui tirait à l'arme lourde sur le coin. Et le lendemain, je décolle. J'évite en volant la zone de tir de la veille, j'atterris à mon vélo et je fonce à la première ville où je rencontre enfin quelqu'un qui parle anglais et qui m'explique que la montagne, elle est fermée depuis 3 mois parce qu'elle est remplie de rebelles du PKK et que l'armée tire à vue sur tout ce qui bouge. Vraiment dans une zone de guerre. Et c'est là que j'ai eu peur. C'est là que je me suis rendu compte à quel point je m'étais mis en danger par ignorance. Cette histoire-là, elle fait un petit peu écho aussi à ce qu'on peut vivre dans notre société actuelle, où par ignorance, on va faire des tas de petits actes qui nous mettent en danger. Et je pense simplement au problème environnemental actuel. On nous rabâche, enfin tous les experts nous disent qu'on est dans une zone rouge en termes environnementaux, et par nos petits actes, etc., d'achat dans les supermarchés, etc., si on se renseigne pas bien, en fait, on sait pas trop ce qu'on achète, et finalement, on va générer des tas de choses, je sais pas moi, des terres rares qui sont recherchées pour faire nos smartphones, etc., dans des zones de guerre au loin, etc. Et en fait, ça m'a fait me dire, déjà, en fait, si on arrivait à collecter un peu d'informations et faire des actes en conscience, on pourrait éviter un peu ces problématiques, enfin ces dangers qu'on se met sur nous-mêmes. Et bien, en fait, j'ai pu accéder à une sorte de liberté que je vais lier à une forme de responsabilité, parce que c'est en conscience que je suis allé faire telle ou telle chose, que je suis parti avec mon vélo sur plusieurs années, que j'ai suicidé un peu ma carrière d'ingénieur. Et dans cette conscience-là, dans cette conscience un peu plus responsable, j'y ai trouvé une immense liberté qui a été formidable pour ma vie.
On va laisser ton site internet.
enrouteavecelle.com.
Et les gens qui voudraient avoir ton bouquin dédicacé, comment est-ce qu'il faut qu'ils procèdent ?
Tout simplement sur mon site internet ou la page Facebook, donc enrouteavecelle.ile. On peut le trouver, je peux vous l'envoyer très rapidement, dédicacé, personnalisé. Voilà.
Alors, on va terminer avec ton slogan que j'ai lu aussi dans ton livre, In Tartiflette We Trust, ou Fly and Roll. Donc merci Olivier pour ce slogan qui est très apprécié ici dans le 05.
Je suis de tout cœur avec toi.
Focus. Une immersion dans l'univers de la création.